Panorama Info, un regard chrétien sur le monde et sur l'Église. Nagasaki. Ce nom, qui est celui d'une grande cité du Japon, est inséparable de celui d'Hiroshima. Hiroshima, Nagasaki, ces deux villes qui ont connu l'horreur de la bombe atomique en août 1945. 60 ans après, un bouleversant témoignage nous raconte comment une famille catholique de Nagasaki a survécu à l'enfer nucléaire. C'est ce témoignage, livré dans un ouvrage ayant pour titre « Le sourire des cloches de Nagasaki », ainsi qu'un regard vers l'histoire et la personnalité hors du commun d'un homme, un saint, peut-on dire, qui vécut au sein de cet enfer, que je voudrais évoquer dans le dossier Panorama Info d'aujourd'hui. Août 1945. Le Japon en guerre refuse de capituler. Depuis 2 ans déjà, l'Empire du Soleil Levant, d'abord conquérant, se trouve désormais sur la défensive. L'une après l'autre, les bases conquises, protégeant l'accès de l'archipel nippon, tombent. La flotte japonaise subit défaite après défaite. Les îles japonaises sont de plus en plus fréquemment bombardées par des raids des forteresses volantes américaines. Le Japon sera-t-il écrasé sous les bombes? Mais la caste militaire ne veut pas entendre parler de capitulation. Elle cherche, dans la tradition nationale des samouraïs et du harakiri, une arme d'un autre âge, la bombe humaine, le kamikaze, pilote suicide qui se jette avec son avion bourré d'explosifs sur les cibles ennemies. L'amiral Onishi, l'inventeur des kamikazes, envisage froidement, en ce milieu d'année 1945, la mort de 20 millions de Japonais. Mais refus absolu de capituler, d'autant plus que les Alliés exigent une reddition sans condition. Combien de temps et combien de morts, combien de misères de part et d'autre faudra-t-il pour que le Japon admette sa défaite inéluctable? Le président américain Harry Truman décide alors l'emploi de la bombe atomique, dont la première, à titre expérimental mais décisif, vient d'exploser le 16 juillet dans le désert du Nouveau-Mexique devant 250 savants. Le 26 juillet, la déclaration de Potsdam, déclaration commune de Truman, Churchill et Chiang Kai-shek, exhorte le Japon à capituler. Il ne fait cependant aucune allusion à la dévastation atomique. Il ne fournit aucun indice possible. La question a bien été débattue en haut lieu, mais finalement, il a été jugé nécessaire de préserver le formidable effet de surprise et aussi d'éviter le moindre risque que la forteresse B-29 portant la bombe ne soit repérée et attaquée par des avions kamikazes. Après cette déclaration de Potsdam, aucune réaction japonaise. Les événements vont alors s'enchaîner jusqu'à la fin. Seul un ouragan pourrait retarder l'heure fatale, le jour fatal. Le 6 août, à 8h17, une bombe atomique de 15 000 tonnes TNT à l'uranium, surnommée Little Boy, c'est-à-dire petit garçon, est lancée d'une altitude de 9 000 mètres au-dessus d'Hiroshima, grande cité de 350 000 habitants. La bombe est réglée de façon à exploser à quelques centaines de mètres du sol. 51 secondes s'écoulent entre le largage et l'explosion. Le champignon atomique atteindra en 2 minutes seulement 10 000 mètres d'altitude. La température au sol va atteindre et dépasser 3000 degrés. L'apocalypse a commencé. Combien y aura-t-il ce jour-là et dans les mois suivants de morts? On ne le saura jamais avec exactitude. 200 000, 250 000, 300 000. Mais le Japon garde le silence. Le 9 août, le major Suine décolle de l'île Tinian, l'une des îles Mariannes, à environ 2000 km au sud du Japon. Son B-29 porte une bombe de 5 tonnes au plutonium, surnommée Fat Man, le gros homme. Sa puissance de destruction, 20 000 tonnes TNT, est encore supérieure nettement à la bombe d'Hiroshima. Deux objectifs lui ont été fixés, Kokura ou Nagasaki. Selon les conditions météorologiques, le major Suine décidera. Arrivé au-dessus de la ville de Kokura, il constate une forte couverture de nuages. Il se dirige alors vers Nagasaki. 10h58, il largue sa bombe depuis une altitude de 9000 mètres. La flamme nucléaire va aussitôt tuer plus d'un tiers des 200 000 habitants de Nagasaki. Autant vont mourir dans les mois ou dans les premières années qui suivront. Parmi ces 72 000 morts en ce 9 août 1945, 8 000 catholiques qui vivaient en majorité dans le quartier de Urakami, autour de la cathédrale, épicentre de l'explosion. Nagasaki, en ce mois d'août 1945, est un port dynamique de l'île Kyushu, au sud du Japon. C'est aussi une ville sainte pour les chrétiens. Oui, car dès le XVIe siècle, ce fut une ville de martyrs. Saint François Xavier avait séjourné 2 ans au Japon. Après lui, dans la seconde moitié du XVIe siècle, de nombreux jésuites évangélisèrent avec succès le sud du Japon. Ils convertirent, à la foi chrétienne, des chefs féodaux. Et bientôt, des franciscains espagnols venant des Philippines arrivèrent à leur tour. Et puis, un navire espagnol recherchant une base commerciale. Ces arrivées successives suscitèrent soupçons et craintes du seigneur de Kyoto, pourtant ami des jésuites. Et il publia un édit chassant les missionnaires chrétiens, et il condamna à mort 6 franciscains, 3 jésuites, parmi lesquels Paul Miki, admiré pour son ardeur missionnaire, et 17 laïcs japonais, dont 3 enfants. Ils seront conduits comme du bétail à Nagasaki, où ils seront mis en croix. Un très beau monument à Nagasaki fut érigé pour rappeler le martyr de Saint Paul Miki et de ses compagnons. Revenons à présent à ce 9 août 1945. Ce jour-là, dans la banlieue de Nagasaki, un enfant de 10 ans, Makoto Nagai, est en train de se baigner dans la rivière. Il appartient à une famille catholique, les Nagai. Le père Takashi est un médecin, militaire, radiologue. Sa femme, très aimée, Midori, lui a donné 2 beaux enfants, un fils, Makoto, et une fille, Kayano, qui n'a encore que 4 ans. Dès l'annonce de la bombe sur Hiroshima, le docteur, par précaution, a décidé d'envoyer ses 2 enfants avec leur grand-mère maternelle à la montagne, à 6 kilomètres de la ville, dans leur maison de vacances. Lui, avec sa femme, il est resté à Nagasaki. En ce matin du 9 août, le petit Makoto, insouciant, est donc en train de se baigner dans la rivière, proche de la propriété familiale. Soudain, il entend le ronflement d'un avion, et puis, brusquement, il est comme aveuglé par un éclair de lumière blanchâtre, et le soleil s'obscurcit. Il ressent un souffle violent, en même temps qu'il entend le bruit d'une formidable explosion. La chaleur devient insupportable. Puis, un silence, angoissant. Il retourne à la maison. Et là, sa grand-mère, blême de peur, annonce qu'un énorme incendie vient d'embraser Nagasaki. Ce qu'il a vu ce jour-là, puis les jours, et les mois et les années qui suivent, Makoto Nagai va le raconter dans un ouvrage appelé « Le sourire des cloches de Nagasaki ». Cet ouvrage sera traduit par une Française, Marie-Renée Noir, vivant au Japon depuis 1977, car cet ouvrage va devenir un best-seller mondial. Marie-Renée Noir est bouleversée par ce récit qu'elle lit au cours de son apprentissage de la langue japonaise. Elle enseigne le français à l'université de Kyoto. Elle découvre toute une série d'autres ouvrages signés, eux, Takashi Nagai, c'est-à-dire du père de Makoto. Et tous ces ouvrages, elle les traduira en français. Car le père de Makoto, qui était donc resté à Nagasaki avec sa femme, fut l'un des survivants de ce bombardement du 9 août. Makoto, ce jeune garçon de 10 ans, est donc revenu, en hâte à la maison. Sa grand-mère lui montre l'immense lueur de l'incendie qui ravage Nagasaki. Elle se tait. Puis elle part pour la ville, à la recherche de sa fille Midori et de son gendre, Takashi. Des heures se passent, et Makoto la voit revenir. Et la grand-mère dépose délicatement dans le tokonura, c'est-à-dire l'alcôve de la pièce principale, toute ornée, comme d'habitude, de fleurs et d'objets d'art, une petite boîte, un coffret en métal noirci. C'est là un geste très inhabituel. L'enfant pressent le pire. Malgré l'interdiction qui lui en est faite, il entr'ouvre la boîte. Elle contient des os humains. Pourquoi cela? Mais aussitôt, il a la certitude que ces os, ce sont les restes de sa maman. La grand-mère ne cache pas longtemps à son petit-fils l'horreur de la situation. Parce qu'il est le fils aîné, c'est lui qui prendra la relève, comme l'exige la coutume au Japon. Dès le troisième jour, la grand-mère emmène Makoto en ville. Il est mis en présence d'un spectacle d'apocalypse, dans une puanteur insupportable. Cadavres et ossements humains, arbres calcinés, décombres, cendres, partout, partout. Et quand ils parviennent sur les ruines de leur maison familiale, la grand-mère s'effondre et murmure « Ta maman a été brûlée ici. » Et son père, qu'est-il devenu? Lui, on le retrouve, blessé à la tête, mais vivant. Il reprendra rapidement sa tâche de médecin auprès des innombrables blessés, nuit et jour, dans un hôpital de fortune. Ce qu'on appelle la maladie de la bombe, conséquence de l'irradiation aux rayons mortels, emportera encore des dizaines et des dizaines de milliers de victimes. Beaucoup de proches des Nagai mourront ainsi. Le père, Takashi, est lui aussi atteint. Il est épuisé du reste par la leucémie contractée du fait de sa profession de radiologue, mais qui se trouve aggravée par les radiations de la bombe. C'est lui qui, le 23 novembre 1945, est choisi comme représentant des chrétiens pour prendre la parole lors de la cérémonie officielle des funérailles à Nagasaki. Des catholiques, ces 8000 catholiques du quartier de Urakami, victime de la bombe. Nakashi porte la barbe et les cheveux longs, signe du deuil, pendant 6 mois, selon la coutume au Japon. Dans son intervention, il s'efforce de redonner espérance aux familles en deuil. Il voit dans la bombe, explique-t-il, le doigt de la Providence. Nagasaki, c'est la ville des martyrs, mais c'est aussi celle par qui, grâce à la bombe, la paix arrive enfin. Comme signe de cette espérance, la communauté catholique retrouve intacte la veille de Noël 1945, l'une des deux cloches de la cathédrale de Nagasaki, cathédrale qui a été complètement détruite. Et cette cloche sonne pour la messe de minuit en cette année 1945, en cette année terrible. Dès l'automne, avec le restant de sa famille, c'est-à-dire ses deux enfants et sa belle-mère, le docteur Takashi revient dans le quartier de Urakami. On s'installe comme on peut, sans chauffage, dans une cabane d'une seule pièce construite avec les débris de la maison. Makoto devient pensionnaire dans la ville voisine. Le père retourne travailler à l'hôpital. Mais en juillet 1946, son état de santé est tellement délabré qu'il doit s'arrêter de travailler et il doit s'aliter définitivement. Une solide petite hutte est alors bâtie pour lui seul. Il la baptise Niokodo, lieu où l'on s'aime. Couché, il poursuit son travail de chercheur et il se met à écrire une douzaine de livres. Pour ranimer le courage de son pays démoralisé, faire connaître au monde le sacrifice des victimes de la bombe et œuvrer pour la paix jusqu'à la limite de ses forces. À partir de la publication de son premier livre, « Les cloches de Nagasaki », paru en 1948, son lit de douleur devient un centre de rayonnement. Des visiteurs de toutes conditions viennent du monde entier, pour un conseil humain ou spirituel. Il reçoit le jour et il écrit la nuit, malgré la souffrance, jusqu'à l'épuisement. La famille est très unie et très fervente. Le père prie tous les jours avec ses enfants et il s'efforce de les éduquer au mieux. Il est très ferme, sévère même, mais avec un doigté féminin pour suppléer le manque de moments. Makoto et Kayano sont des enfants sans problème, mais très tôt mûris par les épreuves. Et Makoto, à l'adolescence, va soigner les gens comme véritablement un infirmier. Et il soignera d'abord son père avec un extraordinaire amour filial. Takashi meurt le 1er mai 1951. Plus de 20 000 personnes de toutes conditions et religions assistent à ses funérailles à la cathédrale de Urakami. Après la mort de son père, que devient Makoto? Makoto entrera à l'université à Tokyo, il deviendra journaliste, il se mariera dans cette ville, il y passera sa vie pour revenir à Nagasaki à sa retraite et y mourir en 2001. Le fils de Makoto, lui aussi chrétien fervent, a fondé et dirige un musée à la mémoire de son grand-père à Nagasaki, musée très visité, non loin du musée atomique et des monuments des chrétiens martyrs du Japon. Takashi Nagai était mort en odeur de sainteté. Beaucoup sont ceux qui viennent se recueillir à ce mémorial. De plus, en 1994, paraissait une remarquable biographie de Takashi Nagai. C'est un religieux australien, le père Paul Glynn, qui raconte la vie étonnante de ce médecin japonais. Sa jeunesse, dans une famille shintoïste, sa conversion, depuis l'athéisme jusqu'au catholicisme, grâce à ceci, à la famille descendante des chrétiens cachés, évangélisés par saint François Xavier, cette famille qu'il héberge durant ses études de médecine, son mariage avec Midori, la fille de la maison, puis son choix d'une spécialité dangereuse, la radiologie, et l'horreur de la bombe et de ce jour où il perd sa femme carbonisée, chapelée à la main, et puis sa vie de grand malade, et sa vocation d'écrivain, et son rayonnement immense, par ses écrits, par sa vie et par sa mort. Le procès de béatification de Takashi est ouvert. Les catholiques de Nagasaki, attendant un miracle qui doit être officiellement reconnu, donc les catholiques de Nagasaki persistent à espérer cette béatification. Chers amis, nous refermons ici ce dossier Panorama Info dont le titre pourrait être « Un saint à Nagasaki ».